Soyez les bienvenus. Ce matin, on veut juste se rappeler la croix. C'est ce message essentiel. Jésus fait homme, qui est venu sur la terre. Il était parfaitement Dieu. Il est mort à la croix, mais il est ressuscité. Alléluia. On est ensemble ? Ce matin, nous voulons tous ensemble continuer à élever le nom de Jésus dans la louange, dans l'adoration, parce que oui, il est digne.
Tu m'aimais avant que je sois.
Tenir devant toi ce matin. Alors Seigneur, je te demande pardon pour mes manquements, mes actes manqués. J'ai raté la cible à plusieurs occasions, mais je sais que tu es tellement fidèle pour pardonner. Et ce matin, en communauté, en église, on se rassemble devant toi. Et Seigneur, ce matin, sonde nos cœurs. À l'instar du psalmiste qui disait « Sonde-moi, éprouve-moi. » Je refuse, Seigneur, de ne pas vivre une introspection et de me poser les bonnes questions sur mon état, face à ta gloire, face à ta sainteté, face à la croix. Sonde-moi ce matin. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur.
Regarde si je suis sur une mauvaise voie.
comme je le disais tout à l'heure, face à tant de grâce, Jésus. Nous ne restons pas aveugles quant à la portée de ton sacrifice. Alors ce matin, on élève la voix pour te louer, pour t'adorer, Jésus, parce que nous t'aimons. Nous voulons vivre quelque chose de fort avec toi. Tiens-nous dans tes bras. Tiens-nous dans tes bras face à l'adversité. Quand nous faiblissons, Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Tu es notre roc, notre solide fondation. Jésus, tu es digne de recevoir la louange. Nous élevons ton nom. Merci parce que quand tu es monté vers le Père, tu as dit qu'il était préférable que tu t'en ailles pour nous envoyer le glorieux Saint-Esprit. Et c'est cet Esprit qui se meut ici, présent, dans nos vies, en nous, dans cette salle, parce que nous sommes plusieurs à nous rassembler pour l'adorer. Nous reconnaissons ta sainteté. Nous reconnaissons ta toute puissance. Tu es magnifique, Jésus. On peut encore faire silence quelques secondes. Juste pour l'écouter. Seigneur, ce matin, voulait encore t'offrir ce qu'on a de meilleur, notre cœur, notre adoration. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi, Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, et même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom, je chanterai Dieu. Mon essentiel, je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur. Non, rien. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Et je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom.
je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Toute ma vie, je redirai.
Je chanterai en... toi. On peut prendre place ensemble. Souverain, il règne, il est au contrôle. C'est tellement en même temps rassurant, tellement bénissant que Dieu est au contrôle. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici à l'église de l'Épi. Vous qui nous visitez, qui êtes en vacances, certains ont fait quelques milliers de kilomètres pour venir en vacances en Alsace, parfois même du Québec, pour venir être en vacances, découvrir la plus belle ville de France, la plus belle région de France. Que Dieu soit béni pour des personnes qui, au travers le monde, reconnaissent la beauté de notre région et qui, en plus, viennent en église pour célébrer Jésus. On ne veut pas mettre mal à l'aise les Québécois qui sont là. Hein. Et puis vous qui nous visitez aussi ce matin, peut-être vous venez d'une autre région de France, d'une autre ville, vous qui êtes en ligne, Église de l'Épi, est-ce qu'on peut souhaiter la bienvenue? Ils ne se reconnaîtront personne, mais on peut leur souhaiter une bienvenue. Je m'appelle Mathieu Thoman, je suis un des pasteurs au niveau de l'équipe pastorale ici, et puis on est des dizaines et des dizaines heureux de se rassembler, de se servir les uns les autres, et une grande joie pour moi. Dieu est souverain, Dieu prend soin. La Bible dit que Dieu aime l'homme, le prochain, et on veut vraiment rendre ça concret. C'est pourquoi depuis plusieurs mois maintenant, l'Église se mobilise au travers d'une action qui s'appelle l'Épi Collecte. L'Épi Collecte, c'est semer la générosité et puis récolter l'espoir. On travaille avec une association culturelle, l'association Enjeu, qui à chaque mois distribue des colis alimentaires à plus de 200 personnes, petits et grands, et on veut vraiment participer à cet effort, nous en tant qu'Église, de permettre à ce qu'il y ait des colis de qualité. On travaille en partenariat avec la banque alimentaire du Bas-Rhin, et les défis sont nombreux pour plein d'associations, et nous voulons vraiment que les colis qu'on offre soient des colis de qualité, des colis qui soient bien remplis, et c'est pourquoi on veut mettre en place cet effort, l'Épi Collecte. Donc s'il s'agit pour nous, Église, de collecter des denrées, et on les remet en jeu, qui est engagé auprès des plus démunis. La prochaine collecte aura lieu le dimanche 3 août, et je vais le confesser, comme ça va mettre tout le monde à l'aise. Parfois, j'oublie aussi la date. Donc quand je vois le stand qui est là, je suis en mode « Oh non, toutes mes denrées, tout ça, j'ai complètement oublié ». On vous rappelle que si jamais vous avez ce petit fascicule avec toutes les dates dedans pour pouvoir vous préparer dans la semaine ou quand vous faites vos courses, de développer cette mentalité solidaire, de dire je prends... Il y a toute une liste de denrées dont on aurait besoin pour les familles qu'on soutient. Donc vous pouvez vraiment, à la fin de cette célébration, dans le hall, vous avez différents endroits où il y a ces flyers. Vous pouvez aller à l'espace vie d'église, vous munir et mettre ça. Pour nous, c'est dimanche prochain, le 3 août. Donc qu'on puisse vraiment participer avec force à cela et vraiment être concret entre « Oui Jésus, je te bénis, ben je te bénis en aimant et en aidant mon prochain comme moi-même aussi. » Qu'on soit tout à fait concret dans notre foi. Si vous voulez en savoir plus sur Enjeu, notre association aussi culturelle, il y a un petit livret qui a été fait pour vous. Vous avez toutes les informations pour savoir ce qu'on fait, les actions qu'on fait. Ça va du collier alimentaire au cours de français pour aider les personnes dans leur démarche, dans leur vie de quartier. Ça va aussi dans les objets faits main. Ça va aider aussi des familles, par exemple, pour des colonies de vacances ou autres. Et ça va soutenir aussi des projets humanitaires bien au-delà de Strasbourg. Donc, vous avez tout, absolument tout, dans son petit livret qui vous explique qui est en jeu. Vous pouvez vous devenir membre d'Enjeu, vous pouvez vous investir dans cette association. Il y a toute une équipe qui sera heureuse de vous accueillir. Là aussi, à l'espace vie d'église, tout de suite en sortant de cet endroit, vous allez sur la droite, espace vie d'église, vous posez les questions et vous aurez des réponses. Ce matin, dernier message de Monsieur Jérôme Kantelberg. Le déménagement s'est bien passé. Et je voudrais remercier l'Église pour la cagnotte et pour votre générosité qui ont permis à cette famille, qu'on soit une Église qui bénit. Vraiment merci à tous les donateurs, les donatrices pour ce soutien-là. C'est toujours touchant et voilà, encore une fois, une bonne nouvelle pour le Royaume, je le rappelle. La France a besoin de Jésus, la France a besoin d'Églises qui sont implantées, qui sont en bonne santé dans leur leadership, qui puissent rejoindre tout à chacun. Et nous, on est très heureux du coup pour eux, même si nos cœurs font un petit peu mal, parce que c'est un collègue dans le ministère qu'on perd ensemble, parce que certains d'entre vous, vous serviez au quotidien avec Jérôme. Et voilà, réjouissons-nous de ce que l'Épi fasse partie de cette église qui multiplie, qui envoie, qui accueille, qui fait en sorte que toute la France soit bénie, quoi. Donc on est très heureux, Jérôme, de t'accueillir ce matin. Que Dieu te bénisse pour ton message. On va prier pour lui, comme on a la bonne habitude de le faire. Et ensuite, nous allons être à l'écoute du conseil de la Bible. Hein ? Seigneur, merci. Merci pour ce temps maintenant autour de ta parole. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Prêcher l'évangile, annoncer l'évangile, partager l'évangile, méditer ensemble l'évangile. Nous croyons que l'évangile, c'est une semence, Seigneur Jésus. Merci de bénir Jérôme, Clem, les filles. Merci de bénir particulièrement ton prédicateur ce matin. On te prie vraiment de le renouveler, de le bénir, Saint-Esprit, qu'on puisse vraiment être aligné avec ton cœur ce matin. Que ta parole soit une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Que ta parole soit comme cette épée à double tranchant qui nous aide dans le discernement. Que ta parole soit cette source d'eau vive qui rafraîchit notre âme. Oui, Seigneur, nous avons soif encore de plonger nos regards et nos cœurs dans ta parole. À toi toute la gloire ce matin, Seigneur. Amen. Soyez bénis.
Amen, amen. Merci Mathieu. Merci oui à toute l'église Mathieu Ladagie, mais pour votre générosité, pour tout le soutien, tout l'encouragement aussi, toutes les bonnes paroles que vous nous avez dites. On est vraiment bénis d'avoir été ici à l'EPI, de vous connaître. Et notre histoire ne s'arrête pas là. Je pense qu'on voilà, on reviendra. Puis on aime l'Alsace, on aime l'EPI, on aime la choucroute. Donc on reviendra. Amen. Le dernier message que je prêche à l'EPI, il a un titre assez particulier. Voici mon titre. Ils détourneront l'oreille, mais toi. Ils détourneront l'oreille, mais toi. Il y a 2 mois, je ne sais pas s'il y en a qui sont fans de tennis, qui ont suivi un petit peu Roland-Garros, le Grand Chelem à Paris au mois de mai-juin. Il y a un des plus grands champions de l'histoire du tennis qui s'appelle Rafael Nadal, qui a pris sa retraite. Et il a gagné 14 fois le Grand Chelem. Roland-Garros, c'est un record qui ne sera certainement jamais battu d'après les spécialistes, bien que peut-être son petit frère Carlos Alcaraz qui le fera un jour, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est un grand champion. Puis lors de la cérémonie, ils ont voulu célébrer sa carrière, mais aussi son attitude. Et ils ont ramené ses 3 grands rivaux qui étaient là. Il y avait Murray, Djokovic, Federer qui étaient là pour le remercier. Il y a la photo qui apparaît. Donc Rafael Nadal, c'est le 3e opportun de la gauche pour ceux qui ne suivent vraiment pas le tennis. Donc c'est un Espagnol. Et il va dire un petit mot à la nouvelle génération, de manière implicite. Il va dire quelques conseils juste avant de partir, avant de poser la raquette. C'était vraiment son dernier revoir avant de poser la raquette, puis avant d'avoir une autre carrière dans on ne sait pas quoi, on verra bien. Mais il va dire, surtout, respectez-vous. Il va vraiment, ça lui tient à cœur. Oui, on est des rivaux, on s'est battu tant de fois, on s'est battu pour la plupart 40, 50 fois en finale, en demi-finale, mais respectez-vous et restez dans le respect, restez dans l'humilité. Il va donner un dernier conseil à la jeune génération et c'est exactement ce que l'apôtre Paul va faire à Timothée juste avant de mourir. Il va écrire la lettre au Timothée, première, deuxième lettre. Et la deuxième lettre, Paul sait très bien qu'il va mourir dans pas longtemps. Il le sait. Il a eu 30 ans de ministère, il a implanté je ne sais pas combien d'églises, il a écrit la moitié du Nouveau Testament, il a certainement le ministère le plus impactant du monde depuis le début de l'Église. C'est un gars qui a travaillé, qui a prié, qui a pris des coups, puis quand il écrit, il est en prison. Il est en prison, puis il va dire, ah ben, il y a Alexandre le forgeron qui m'a fait beaucoup de mal. Puis il est en train de souffrir. Il va même dire à un moment donné, ramène mon manteau parce qu'il fait froid dans la prison. Il est en train de souffrir. Il aurait pu juste dire, ok, c'est bon, j'ai écrit assez de lettres, je me suis assez déversé, j'ai assez donné de mon temps, puis là je vais mourir à cause de l'évangile. Il aurait eu le droit de prendre sa retraite et se dire, ok, je vais juste prendre quelques jours tranquille, je vais aller dans un endroit où les chrétiens ne sont pas persécutés. C'est un peu compliqué à l'époque de trouver un endroit comme ça. Mais il aurait pu se dire, ok, je me retire. Mais non, en fait, il va dire, non. Il y a encore quelques conseils que j'ai envie de donner à Timothée. Timothée, c'est son fils spirituel, c'est le gars qui l'a pris sous son aile, qui l'a mentoré, qui l'a coaché, qui l'a accompagné. Parce que Timothée venait justement d'être pasteur, et puis il était tout jeune, puis certainement angoissé, stressé. Puis l'apôtre Paul, il va lui donner encore quelques conseils avant de partir. Dire, c'est trop important que je me taise, il faut que je te parle, il faut que je te dise quelques conseils, quelques commandements encore de ma part, mais qui viennent de la part de Dieu. Puis on va juste lire ensemble, 2 Timothée, chapitre 4, versets 1 à 8. On lit tout et après on va décortiquer ensemble. Je t'en supplie, devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au moment de sa venue et de son règne. Prêche la parole, insiste en toute occasion, qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. En effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront
une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, accomplis la tâche d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le beau combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Paul est à deux doigts de mourir. Et voici les recommandations qu'il va donner, puis il va prendre des mots qui sont super lourds. Il va dire « je t'en supplie ». Et en fait, littéralement, dans le grec, c'est « je te charge ». Je te donne cette charge, je te donne ce fardeau. Tu sais, nous, des fois, en tant que chrétien, on dit « Ah, c'est bon, je rencontre Jésus, il n'y a plus de fardeau. » Là, il dit « Ben moi, je te donne un fardeau. Je te donne une charge que tu dois porter et je prends deux témoins. » Dans la culture juive de l'époque, il fallait prendre deux témoins pour que ce soit vraiment avéré. Puis là, il prend deux témoins, mais pas n'importe lesquels. Il prend Dieu le Père et Jésus. Il dit devant Dieu, devant Jésus, qui doit juger les vivants et les morts. Et parce que quand son règne, quand son royaume va venir, il va juger les vivants et les morts. Et là, il est en train de dire, je te donne cette charge, et en fait, tu devras rendre des comptes par rapport à cette charge. C'est un moment sérieux, là. C'est un moment super sérieux. Puis là, il ne parle pas de juste de ceux qui mènent une vie qui ne sont pas Dieu. Il parle de tous les disciples de Jésus. Il parle de tous les disciples de Jésus, parce que là, on pourrait se dire, ah, mais Jérôme, c'est Timothée, c'est un pasteur. C'est un évangéliste. C'est un gars qui travaille dans l'église avec un ministère don, c'est... Ça ne me concerne pas. Sauf que Paul, dans d'autres lettres, il va dire, si tu es un disciple de Jésus, si tu crois en Jésus, si tu as décidé de le suivre, tu es un ambassadeur. Donc tu dois le représenter. Donc c'est-à-dire tu as des dons et talents. Et à la fin de ta vie, tu devras rendre des comptes sur ta gestion de ton temps, de ton argent, des dons et talents que tu as reçus. Est-ce que tu as incarné l'évangile dans tous les domaines de ta vie? Tu devras rendre des comptes. Donc ce passage, il n'est pas que pour le conseil spirituel et l'équipe pastorale. Il est pour tout le monde. Si tu veux suivre Jésus, ce passage... il est pour toi. Paul donne cette charge, et en fait, il est en train de dire, cette charge, c'est pas que moi qui te la donne, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui donne cette charge-là. Prends-la sur toi. Elle est lourde, elle fait mal, elle fait souffrir, mais c'est ta responsabilité de la prendre. On devra rendre des comptes pour ça. Puis il va quand même un petit peu encourager, parce qu'il donne cette responsabilité, mais en disant que Jésus va venir juger les vivants et les morts lors de l'avènement de son royaume. Il est en train de dire, Jésus est déjà victorieux. Juste un petit rappel de, je te donne une charge, mais tu portes la charge d'un roi qui est déjà victorieux. Sois encouragé. Oui, c'est dur, mais tu es victorieux. Puis il va le dire à la fin, moi j'ai gardé la foi, j'ai accompli la course, j'ai été au bout. Et je suis resté sur le bon chemin. Mais quelle charge l'apôtre Paul est en train de donner à Timothée, puis à chacun d'entre nous ce matin. Verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion qu'elle soit favorable ou non, réfute, reprend et encourage, fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Encore une fois, on pourrait se faire avoir là, quand on entend prêche la parole, on pense à ce que je suis en train de faire, prédication, on pense à ceux qui prêchent à l'église, on pense à ceux qui enseignent, on pense, et c'est vrai que ça comprend ça aussi, mais quand on étudie le passage, c'est pas que ça. C'est vraiment pas que ça. Les théologiens, et notamment John Stott, qui a écrit un commentaire sur le passage, va dire que le mot parole ici renvoie à toutes les fois où l'apôtre Paul a écrit sur le mot parole. Donc ça, en fait, ça concerne toute la doctrine. Ça concerne plein de vérités différentes. Ça concerne que Jésus est Seigneur, Jésus est Sauveur, Jésus est Dieu, Jésus jugera le monde, Jésus a vaincu la mort, Jésus revient bientôt. Puis tout ce que l'apôtre Paul a enseigné dans ses lettres. Tout ça. Et en même temps, ça comprend aussi d'autres choses qui concernent tous les croyants. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 19 à 20, il y a l'apôtre Paul qui va donner cette charge justement à tous les disciples de Jésus. En effet, en Jésus-Christ, c'était Dieu en personne qui réconciliait le monde avec lui-même, ne tenant plus compte du péché des hommes. C'est ce message, ou littéralement cette parole de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres. Cette parole de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargé de proclamer publiquement. Puisque nous en avons reçu la mission, nous parlons donc en ambassadeur du Christ. Ça, c'est pour toi et moi. Par notre moyen, Dieu lui-même adresse son invitation aux hommes. C'est au nom du Christ que nous lui supplions. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Ça, c'est ta mission, c'est ma mission. Que tu sois pasteur ou non, que peu importe, tes disciples de Jésus, c'est ta mission. Il faut que tes mots, mais pas que. Il faut que tes actions également, parce qu'en fait, prêche la parole, littéralement, c'est incarne l'évangile. Dans tous les domaines de ta vie, incarne l'évangile. Il faut que ta vie, Il faut que tu incarnes l'évangile et que ça crie aux autres, soyez réconciliés avec Dieu. Il faut que ton témoignage, ton comportement, ton caractère, tes mots, tes pensées, tout ce que tu fais, crie aux autres, hey, viens Jésus, tu as besoin de Jésus, tu as besoin d'un sauveur. Tout ce que tu fais doit incarner l'évangile. Donc ça, c'est pour prêcher aux incroyants, mais aussi aux croyants. Et notamment, l'apôtre Paul, ici, dans le contexte, il insiste à Timothée, dire, prêche aussi à l'Église. Parce que viendra un temps où il y aura différentes hérésies qui vont venir. Donc il faut que tu prêches la sainte doctrine pour protéger la vérité, pour pas que les gens s'éloignent, pour pas que les gens aillent à tout vent de doctrine dans les faux courants de pensée qui circulent. Puis aujourd'hui, il y en a, puis on verra à la fin du message. Tout ce qu'il peut y avoir comme fausse pensée. Il faut protéger la bonne nouvelle. Puis c'est vraiment une urgence pour l'apôtre Paul. Et il dit pas juste quoi faire, il va dire comment faire. Verset 2, on reprend. Réfute, reprend et encourage. Trois domaines différents. Réfute, on peut aussi traduire par réprimander. Et là, les théologiens vont dire que ça concerne toutes les fausses doctrines. Réfute intellectuellement toutes les pensées qui se dérivent de la vérité, toutes les pensées qui sont fausses, toutes les fausses doctrines, toutes les hérésies. Réfute cela. Ensuite, c'est reprend. Si réfuter, c'est le plan intellectuel, reprendre, c'est sur le plan moral, c'est le comportement. Quand tu vois un frère, une sœur qui est dans l'erreur au niveau de son comportement, au niveau de ses mots, au niveau, reprends-la et ramène-la sur une bonne éthique de vie. Ramène-la sur un bon comportement. Et ensuite, c'est encourage. Là, c'est exhorter. Ramène à la grâce. Parle de l'espoir. Ramène toujours à Jésus. Ramène toujours qu'il y a une deuxième chance en Jésus. Et en fonction de notre personnalité, de notre caractère, il y a un des trois qui va se dégager souvent. On connaît tous des gens qui réfutaient, débattent théologiquement, discerner les mauvaises pensées, discerner les faux courants théologiques, c'est vraiment leur force. Ils ont reçu ça. Puis ça ne veut pas dire que c'est forcément des enseignants avec un ministère don, mais il y en a, ils sont passionnés par la théologie, ils ont lu énormément et ils ont une facilité à discerner. Non, là, il y a 5% de mensonges et 95% de vérité, mais les 5%, il est dangereux. Là, il faut faire attention. Il y en a d'autres, ça va être le fait de reprendre. Avec la bonne pédagogie, bien sûr, parce que combien de fois des gens qui ont repris avec la mauvaise pédagogie, puis ça a juste cassé les gens. Non, avec amour, avec sagesse, mais avec fermeté, puis avec autorité aussi. Et il y en a d'autres, c'est l'encouragement. Moi, je sais, à l'épi, qui aller voir si je me sens pas bien et si je veux être encouragé. Je sais qui aller voir. Je sais que si je vais les voir, ils vont me dire une parole. Des fois, ils font même pas exprès, mais c'est eux, c'est le don qu'ils ont reçu, c'est vraiment leur caractère, ils encouragent. Et voici mon rêve pour l'épi. Voici mon rêve pour l'épi, c'est que le plus grand nombre de personnes puissent développer ces trois facettes de prêcher la parole. Le plus grand nombre de personnes. Puis pas forcément mettre en pratique à toute l'église, ça c'est le rôle du CS, de l'équipe pastorale. On a été établi localement par Dieu pour avoir ce rôle-là. Mais avec tes amis, avec les membres de ta famille qui sont à Jésus, avec ceux que tu connais, avec ceux que tu as assez de confiance pour pouvoir les reprendre, pour pouvoir les réfuter, pour pouvoir les encourager. Qu'est-ce que j'aimerais que chaque disciple de Jésus ici à l'épi puisse apprendre à réfuter, apprendre à reprendre, apprendre à encourager. C'est tellement important que chacun puisse se former à un minimum sur la saine doctrine. C'est pour ça qu'on a insté aussi à l'épi. C'est pour ça qu'on a la formation baptême où on voit les bases de la doctrine, les bases de, pour ne pas penser un truc qui est faux et t'emmener sur un comportement qui est mauvais parce que ce que tu crois est faux. C'est tellement important que chacun puisse se former sur la saine doctrine, que chacun puisse avoir assez d'amour pour reprendre son frère parce que ça demande de l'amour et du courage aussi. Ça demande de l'amour. Et que l'Église entière, pas juste quelques-uns, mais que le plus grand nombre puisse être des encourageurs qui ramènent toujours à la grâce, toujours à l'espoir qu'il y a en Jésus. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, c'est mon rêve et c'est ma prière et j'espère que moi, toute ma vie, je vais essayer de développer ces trois facettes qui sont tellement importantes et il faut les développer en même temps. Il faut les développer en même temps. Pourquoi? Parce qu'un tout seul isolé, ça peut être très dangereux. Ça peut être très dangereux. Si tu fais juste réfuter les faux courants de pensée, sans encourager derrière, tu peux briser des gens. Tu peux briser des gens. Si tu fais reprendre le comportement, mais avec une mauvaise doctrine, en fait, tu peux emmener la personne à pécher davantage. Parce que forcément, de ta croyance va amener le bon comportement. Si tu fais juste encourager sans avoir le courage de reprendre, mais en fait, tu fais juste encourager la personne à continuer sur le chemin dans lequel elle est. Les trois sont tellement importants à développer ensemble. Et ça, c'est mon rêve pour vous, c'est mon rêve pour ma propre vie, qu'on puisse développer ça ensemble, les trois en même temps. Les trois en même temps. Il faut développer ces trois choses. C'est ton appel,
c'est mon appel. Maintenant, il faut être honnête. C'est pas simple. Franchement, c'est dur ce qu'il demande à l'apôtre Paul de Timothée. Puis en plus, mettez-vous dans le contexte, il est jeune, il est certainement angoissé. C'est certainement pour ça que les théologiens disent qu'il a des maux de ventre, le stress. C'est pour ça qu'il dit bois un petit peu de vin, ça va te faire du bien. Puis il est angoissé parce que ministère, c'est dur. Servir Dieu, c'est dur. Puis là, c'est sûr, on parle de pastorat. Mais servir Dieu avec les dons et talents que tu as, c'est dur. Être un ambassadeur de Jésus dans ce monde, c'est dur. C'est pas facile. C'est pas vrai. Oui, on ne vit pas la persécution comme dans certains pays où c'est physique, mais psychologique, moral, au niveau relationnel, on peut la vivre aussi en Occident. Et c'est dur d'être un disciple de Jésus. C'est dur de vouloir servir Dieu là où on est. Même des fois à l'église. Des fois, tu es à l'église, tu sers Dieu et tu dis, mais je suis à l'église. Je ne suis pas censé rencontrer de la difficulté comme ça. Je ne suis pas censé rencontrer des gens qui ne représentent pas le caractère de Jésus. Ça, c'est pour tous ceux qui sont au parking. Force à vous. Tous ceux qui sont au café, tous ceux qui sont en relation. En fait, tu te rends compte que l'église, c'est des gens qui sont en cheminement et que forcément, des fois, ça ne se passe pas trop bien. Donc, c'est dur de servir Dieu. C'est vraiment dur. Et Timothée est angoissé. Jeunesse, défi d'église. Et c'est pour ça que Paul aussi va dire, ce n'est pas un esprit de timidité que tu as reçu. C'est un esprit de force. Et à aucun moment, puis c'est ce que j'aime avec l'apôtre Paul, des fois, il ne fait pas plaisir parce qu'en fait, il est trop vrai. Mais il va dire, mais en fait, ce n'est pas parce que c'est dur que je vais te dire d'arrêter. Non. Prêche la parole. Oui, c'est dur. Mais c'est la charge du ministère, c'est la charge du service pour Dieu. Je me souviens d'un prof à l'école publique qui disait, il avait rencontré un pasteur d'une église de la région, puis le pasteur de la région disait, ah c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. C'est trop dur, le ministère, toujours devoir gérer les gens, devoir la gestion de caca, comme il l'appelait, c'est que ça, le côté relationnel où c'est dur, tu as la charge, tu dois faire plaisir à chacun. Bref, il était là, c'est bon, j'arrête. Je ne veux plus de ce stress, je ne veux plus de ce fardeau. Et puis le prof d'école lui disait, ok, c'est simple, arrête le ministère alors. Arrête de servir Dieu. Et il disait, mais non, tu n'as pas compris. Moi, je veux garder mon service pour Dieu, mais je veux enlever le stress et la charge. Il dit, mais c'est impossible. C'est impossible. Le ministère, c'est une charge. Il dit, tu ne peux pas juste garder ta place sans avoir les défis qui viennent avec. C'est impossible. C'est exactement ce que l'apôtre Paul il dit. Jamais il vend du rêve à Timothée en disant, ça va être simple de servir Dieu. Ça va être très, très facile. T'inquiète pas. Non, il dit, ça va être dur. Tu vas souffrir. Ça, ce n'est pas le genre d'appel qui est populaire aujourd'hui. Hein. Nous, on prêche coaching de vie, destinée. Nanana. Là, il dit, non, tu vas souffrir, ça va faire mal. Mais insiste, en toute occasion, prêche la parole. Servir Dieu demande du courage et ça demande du travail. Et souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fonction des personnalités, quand tu es stressé, quand tu es pris par l'angoisse, la paresse arrive. Tu n'oses plus faire. Et là, l'apôtre Paul, il vient un petit peu tacler la paresse également quand il dit, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion qu'elle soit favorable ou non. Quand j'étais jeune, je lisais ce passage et moi, je culpabilisais énormément. Parce que moi, dans ma tête, ça, c'était, il faut que j'arrête chaque personne dans la rue et je lui parle de Jésus. Qu'elle soit favorable ou non, c'est que les gens aient envie d'écouter ou pas. Il faut que j'aille toquer à mes voisins à 3h du matin, accepte Jésus. Je pensais que c'était ça un petit peu, ok? C'est pas vraiment ça que ça veut dire, même si oui, ça veut dire, parle de Jésus quand tu as des occasions qui sont là, mais c'est pas du tout un ordre contre, tu sais, en mode, sois impoli avec les gens. C'est pas du tout ça qu'il est en train de dire. Déjà, il faut réavoir en tête que prêcher la parole, comme j'ai dit, c'est incarner l'évangile. Les mots et les actions. Pas que les mots. Et pas que les actions. Les deux ensemble. Incarne l'évangile dans tout ton être. Représente l'évangile. Il y a une traduction anglaise, la NIB, qui je trouve rend vraiment le sens au texte. Lui, il traduit de la manière suivante. Être en service à tout moment. Qu'il s'agisse d'un moment opportun ou d'un moment inopportun. Et John Stott va le traduire, va le commenter de la manière suivante plutôt. Il semble donc que ce qui nous est donné ici n'est pas une justification biblique de l'impolitesse, mais un appel biblique contre la paresse. Parce qu'il sait très bien que quand tu es stressé, quand tu as peur, tu ne fais pas parce que tu as peur. Et là, il dit à Timothée, je sais que tu as peur, mais travaille. Sers Dieu quand même. Sois pas paresseux. Travaille quand même. Il y a tellement de proverbes qui condamnent la paresse, qui condamnent l'oisiveté. Et ça, souvent, ça t'emmène à pécher. Le roi David, avec Bathsheba, il aurait dû être à la guerre à ce moment-là. Il aurait dû. Mais il n'y était pas. Et là, Paul dit, travaille. Que tu aies envie de travailler ou pas,
sers Dieu. Que tes émotions te disent oui, sers Dieu ou pas, sers Dieu quand même. C'est ta mission, c'est la charge que tu as reçue. Et encore une fois, il faut toujours nuancer quand on prêche ce genre de passage. Il n'est pas en train de dire qu'il ne faut jamais se reposer ou non. Jésus a parlé du sabbat, là, il y a plein de principes dans la Bible qui disent qu'il faut prendre soin de soi. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est prends des vacances quand tu as besoin de prendre de vacances, mais quand tu rentres de vacances, sois plus en vacances, sers Dieu. Et même quand tu es en vacances, incarne l'évangile. Prends soin de toi, mais sers Dieu, sois pas dans la paresse. Les dons que tu as reçus, mets-les en pratique en tout temps, que tu aies envie ou pas. Et le problème, surtout dans... Ça va peut-être pas plaire à certains, mais surtout dans nos milieux charismatiques pentecôtistes, voilà, la prière, le Saint-Esprit, le réveil, c'est super important, mais souvent, on a caché notre paresse à travers une réunion de prière en plus. Je m'explique. Souvent, on a... En fait, en faisant que des réunions de prière, puis la prière c'est bien, puis après je vais le dire, c'est, nous on croit au jeûne et prière, on croit que Dieu agit à travers la prière, c'est clair. Mais il y en a plein qui font que des réunions de prière, et en fait en faisant ça, ils prennent la charge que Paul donne à Timothée, ils prennent cette charge-là et la mettent sur Dieu. Comme si Jésus avait dit, vous savez, quand, juste avant l'ascension, quand Jésus donne ses dernières recommandations aux disciples, c'est comme si Jésus avait dit, hey, priez et je ferai de toutes les nations des disciples, je les baptiserai. C'est pas ça que Jésus a dit. Jésus l'a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et enseignez-leur. Et là, il est en train de dire, cette charge, elle est à vous. C'est pas moi qui va faire ça. Oui, la prière, le Saint-Esprit, il agit, puis nous, on peut pas convaincre les cœurs, on peut pas faire des miracles. Ça, c'est le Saint-Esprit, ça, c'est Dieu qui le fait. Mais cette charge de prêcher la parole, c'est notre rôle à nous. Cette charge d'incarner l'évangile, c'est notre rôle à nous. Et des fois, à travers juste des réunions de prière, sans incarner l'évangile à l'extérieur, en fait, c'est de la paresse. Et là, Paul dit, sois pas là-dedans. Oui, la prière, c'est super important, puis il va le dire à différents moments, dans Éphésiens, dans toutes les lettres, il va dire, joins tes mains, puis combat spirituellement, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, etc. Mais en fait, la prière, c'est quoi? C'est reconnaître que Dieu est tout-puissant et souverain pour établir son royaume, c'est lui qui l'établit, ça c'est vrai. Et le travail ou le service, c'est quoi? C'est rendre concret les prières que l'on fait à Dieu pour vivre le réveil. Le réveil, c'est toi, c'est moi. Christine Cain qui est... Une conférencière aujourd'hui internationale qui a participé à la fondation de l'église Hillsong. Et elle va dire, c'est super intéressant, elle disait au début, on avait une définition du réveil et en fait avec l'implantation notre définition a changé. Au début, le réveil, on l'écrivait R-E-V-E-I-L. Et en fait, après avoir implanté l'église, on a changé la manière d'écrire le mot réveil, on l'a écrit T-R-A-V-A-I-L. Alors, pour les profs de français, ça va tirailler pour vous. Oui, ça ne s'écrit pas comme ça, mais le point, c'est le suivant. Le réveil, ça passe par toi, ça passe par moi. Ce n'est pas juste, Seigneur, Dieu, vas-y, viens faire d'ici, viens, non. Et puis, justement, j'ai un ami québécois qui est là, puis un jour, il a dit, le réveil, c'est facile. Le plus dur, c'est de se mettre debout. À tous ceux qui ont appuyé sur extinction du réveil ce matin. Tu sais, c'est facile de mettre le réveil, tu as juste à programmer un truc. Mais le plus dur, c'est de se mettre debout, d'aller prendre une douche, de se préparer, de s'habiller. C'est ça le plus dur. Merci Stéphane pour cette punch, j'ai vraiment aimé quand tu l'as dit. Je cite toujours mes sources, c'est super important. Prêche la parole, réfute, reprend, encourage. Ça, c'est le comment prêcher. Et après, il va dire avec quel caractère le faire. On continue le verset 2. Fais tout cela avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Encore une fois, j'aime, il est vrai parce que quand il dit « fais ça avec une pleine patience », en fait, il veut juste rappeler, tu sais, pour avoir du changement, ça prend du temps. Des fois, tu as des témoignages et puis les gens, ils changent comme ça, ils ont été délivrés de différentes addictions. Puis c'est vrai que Dieu agit comme ça parfois. Mais la plupart du temps, il faut que tu portes ta croix. Et la plupart du temps, tu auras beau réfuter, reprendre, encourager. Encourager, réfuter, reprendre, encourager, réfuter. Des fois, il n'y aura pas de changement visible sur le moment. Mais là, il dit, mais fais ça avec une pleine patience. Et le mot patience, c'est le même mot qui est utilisé pour parler de la patience de Dieu envers nous. Donc, ce n'est pas juste attends quelques jours. Non, c'est toute ta vie, sois patient. Et il y a des gens qui ne changeront pas.
y a des gens qui ne changeront pas, mais ton ministère ne sera pas, ton service ne sera pas défini par les gens qui auront changé, ce sera défini par ton obéissance à Dieu et les sacrifices que tu as faits. Des fois, il y a des gens qui ne changeront pas, des fois, ça va changer rapidement, des fois, tu vas voir et puis tu vas être encouragé par ça, mais il dit, fais ça avec une pleine patience et un entier souci d'instruire. Il ne faut pas juste dire aux gens qui sont dans l'erreur, ou juste dire aux gens comment faire, il faut expliquer pourquoi. Il faut instruire. Pourquoi il dit ça? Parce qu'en fait, si tu ne changes pas les pensées, le comportement va rester le même finalement. Parce que tu agis comme tu penses. Ultimement, c'est ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul insiste énormément sur le renouvellement des pensées, sur change ce qu'il y a là, nourris-toi des choses qui vont vraiment renouveler tes pensées sur les vérités de la parole, parce que ton comportement va suivre directement. Si tu crois, c'est bête, mais si tu crois que tu dois mériter l'amour de Dieu, tu vas obéir en essayant de mériter l'amour de Dieu, mais ton cœur ne va pas changer. Ton cœur ne va pas changer. Il faut que tu te nourrisses de la vérité qu'en fait, tu ne peux pas mériter et que Jésus a mérité pour toi. Et après, quand tu sais que tu es déjà aimé, bizarrement, c'est plus facile de lui obéir. Ça ne veut pas dire que tu changes en claquant des doigts, mais que ça va être beaucoup plus simple de lui obéir. Ça passe par là. Il faut instruire les gens. Il faut rendre les gens autonomes. Et malheureusement, aujourd'hui, il y a tellement d'enseignants, puis notamment sur Internet, qui rendent enfantins les gens qui les écoutent, qui disent ah, « attention, attention à vos pasteurs ». Puis en fait, ils font le même rôle, ils manipulent les gens parce qu'ils les rendent esclaves d'eux-mêmes. Puis là, je suis très dur dans mes mots, mais franchement, c'est vrai. Franchement, c'est vrai. Puis souvent, c'est des gens qui n'ont aucune redevabilité avec personne. C'est pour ça que c'est tellement important quand, et après on va le voir quand il dit qu'il y a des hommes qui donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs, il y en a tellement aujourd'hui. Mais il dit qu'il faut instruire les gens, il faut rendre les gens capables de discerner qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, il faut rendre les gens capables de reprendre, d'encourager. Ça prend de l'instruction, ça prend un renouvellement des pensées. Et il dit ça aussi justement parce qu'il y a tellement de fausses doctrines qui circulaient à l'époque. Puis on le voit, verset 3-4, en effet, un temps viendra où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, puis là en fait l'expression c'est vraiment drôle, il dit c'est comme quand ton oreille elle te gratte et tu veux juste, t'as une démangeaison, tu veux juste te gratter pour te soulager. Et là il dit, ils vont voir des enseignants pour se soulager, ça change rien, ça règle pas le problème, même ça l'empire. Tu sais quand tu te grattes un bouton, tout ça, pas très cool comme image que je donne, mais c'est vraiment ça le passage, ce qu'il veut dire. Ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Vers les débuts de l'Église, d'ailleurs même juste après l'ascension, il y a différents faux enseignants qui ont commencé à circuler, et puis tu as plein d'hérésies qui ont commencé à prendre place. Et les théologiens vont diviser ces hérésies en trois groupes. Il y a ceux qui niaient l'humanité de Jésus, qui disaient que Jésus il est juste Dieu, son corps c'était une blague, c'était pas vrai, c'était un spectre ou autre. Ceux qui niaient la divinité de Jésus, et ceux qui niaient que Jésus était les deux natures en même temps. Okay ? Donc parmi, je vous fais une petite liste comme ça, c'est vraiment pour la culture, c'est super intéressant. Parmi ceux qui niaient l'humanité de Jésus, majoritairement influencés par les gnostiques de l'époque, on avait le docétisme, on avait l'apollinarisme, on avait la science chrétienne qui encore aujourd'hui soutient ça. Et d'ailleurs, vous lirez l'apôtre Jean, première lettre à Jean, il combat cette pensée. Parce que lui, il va dire, le péché, en gros, qui mène à la mort, c'est de ne pas reconnaître que Jésus était humain. C'est ça qu'il va dire. Donc, il combattait cette pensée, et dans sa deuxième lettre, il combat l'inverse. Il combat ceux qui niaient qu'il était divin. C'est vraiment intéressant. Dès les premières années de l'Église, ces hérésies étaient là. Ensuite, il y avait ceux qui niaient la divinité de Jésus. Donc, on trouve l'ébionisme et l'arianisme. Et les témoins de Jéhovah ont repris cette théologie de l'arianisme. Parce que pour eux, Jésus n'est pas forcément divin à 100% comme nous, on le croit. Parmi ceux qui niaient les deux natures en même temps, il y a les monophysites et le kénotisme. Kénotisme super présent aujourd'hui. Petite parenthèse, kénotisme, c'est ceux qui prennent Philippiens 2, qui disent que, vous savez, il y a comme un poème qui dit que Jésus s'est dépouillé de sa nature divine. Et eux, ils vont prendre ça et ils vont dire, ah, donc ça veut dire que Jésus n'était plus Dieu quand il était sur terre. Et tous les miracles qu'il a fait, il l'a fait par le Saint-Esprit. Donc nous, en tant que disciples, on peut faire exactement tout ce que Jésus a fait. Sauf que non, la Bible dit que Jésus a toujours été 100% Dieu et 100% homme lors de son incarnation. Et il y a aussi une troisième hérésie
qui niait les deux natures en même temps, c'est l'incarnation progressive. C'est-à-dire que Jésus était pleinement Dieu et homme seulement à la croix. C'était progressif. Et toutes ces hérésies ont été condamnées par les différents conciles, par l'Église, en 300, 400, 500, différents conciles qui ont avancé. Toutes ces hérésies ont été considérées comme hérésies, puis les personnes qui prenaient ça se sont fait virer de l'Église. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi ces listings-là, il y a un théologien qui s'appelle Stuart Olliott, qui a œuvré en Angleterre, au Pays de Galles. C'est un théologien qui a enseigné dans pas mal d'universités. Et il a étudié comment on grandit ces hérésies. Et je trouve ça vraiment intéressant. Il dit que la plupart, en fait, c'est un père de l'Église qui avait un petit doute sur, par exemple, la divinité de Jésus. Il disait, peut-être que là, ce passage, il veut... Et ensuite, un de ses disciples, lui, en a fait une théorie et il l'a grandi. Il fait, oui, effectivement, c'est pas juste un doute, c'est vraiment ça, Jésus n'était pas Dieu finalement. Puis ce disciple avait un disciple qui lui en a fait un groupe, une secte, un courant de pensée. Puis à chaque fois en fait c'est une porte qui s'ouvre, c'est un 2% de mensonge qui se transforme en 10% de mensonge, qui se transforme en une hérésie. Puis au fil du temps, par exemple l'arianisme, le gars, au fur et à mesure, en fait le Nouveau Testament il considérait qu'il y avait juste les évangiles et les écrits de Jean qui étaient vrais. L'Apocalypse, il dit non, Jacques, il est trop cash avec nous, on enlève. Et en fait, tu choisis seulement ce qui te plaît. Et c'est ce qu'il va dire en deuxième remarque. Il va dire non seulement ça grandit, puis ça se transmet, en fait, tu ouvres une porte, et puis après, les gens ouvrent la porte de plus en plus grand. Et en même temps, il se rend compte qu'il rejetait ce avec quoi il n'était pas à l'aise dans la doctrine biblique. Tu rejettes ce qui ne te plaît pas. En fait, ils ont fait leur évangile idéal. Moment d'honnêteté, là. Moi, j'aimerais tellement que le véritable évangile parfois ressemble à mes désirs. Ça m'éviterait de souffrir. Ça m'éviterait de devoir sacrifier des choses. Ça m'éviterait d'avoir des pourquoi sans réponse. Ça m'éviterait d'être discipliné dans certains domaines, de devoir. Ça m'éviterait tellement de choses. C'est vrai. On a tous, en fait, en nous, puis on combat tous, je pense vraiment, contre un évangile idéal, un évangile rêvé. Celui de ma fille, c'est de regarder des films, des bonbons, et d'aller au parc toute la journée. Ça, c'est son évangile idéal. Et quand on ne vit pas son évangile idéal, elle est frustrée. Et nous, des fois, on est pareil. Et ces gens qui ont amené ces hérésies, c'est un petit peu ça. Mais non. Non, parce que la divinité de Jésus, elle vient me challenger là-dessus. Donc non, je vais la rejeter. Et puis en plus, il y a peut-être un passage qui peut confirmer ma pensée. Et souvent, c'est ça. Ils utilisent versets bibliques pour venir appuyer leurs doutes et puis leurs pensées. Sauf que c'est pas ça, c'est pas comme ça que tu fondes ta théologie, c'est tu te laisses impacter par les textes et ce que tu crois est basé là-dessus. C'est pas ce que tu crois vient influencer la Bible, c'est l'inverse. L'évangile fondé sur les désirs, puis c'est exactement ce qu'il dit. Au contraire, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. C'est exactement comme l'algorithme sur Internet, c'est sur YouTube. En fait, Internet ne te propose que des vidéos que tu regardes souvent, donc des vidéos avec lesquelles tu es d'accord. Tu n'es jamais confronté. Que des vidéos qui te font plaisir. Que des vidéos qui... Donc si tu veux savoir ce que les gens regardent, prends leur algorithme et tu verras ce avec quoi ils se nourrissent. Il y en a, ils sont en train de cacher leur téléphone. Non, je ne veux pas que... Mais c'est ça, une foule d'enseignants conformes à leurs propres désirs. Ça, c'était à l'époque, les hérésies de l'époque. Mais aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est que ces hérésies-là, n'ont pas vraiment disparu, elles ont même évolué. J'ai juste fait une petite liste des courants de pensée qui ne représentent pas 100% l'évangile, qui sont présents encore aujourd'hui. Juste une petite liste. Premièrement, théologie de la prospérité ou évangile de la prospérité. C'est quoi? C'est Dieu veut que tous ses enfants soient riches, en bonne santé et prospères. La foi et les dons financiers, déclenchent les bénédictions matérielles. Puis là, on va prendre des passages dans l'Ancien Testament, puis on va les isoler, et on va dire, voici, c'est comme ça que ça fonctionne. Le relativisme doctrinal ou le syncrétisme religieux, c'est quoi? Toutes les religions mènent à Dieu. Et la vérité religieuse est subjective. Fusion du christianisme avec le bouddhisme, le kabbal ou des pratiques ésotériques. Ensuite, révision éthique ou théologie progressiste. Ça, c'est très présent en ce moment. La Bible doit être réinterprétée à la lumière des valeurs modernes, notamment sur la sexualité, le genre, l'autorité biblique. Le christianisme utilitaire ou psychologisé. Ça, c'est quoi? C'est Jésus et un coach. Jésus, c'est un coach, il est là pour ton bien-être. Et la foi est une méthode de développement personnel, l'évangile est centré sur le bien-être. Ensuite, on a le spiritualisme désincarné, le gnosticisme moderne, bon, on peut l'appeler des deux manières. Le salut vient par la connaissance intérieure, la gnose, et la matière est secondaire, voire mauvaise, donc tout ce qui est New Age. Le théocratisme, très présent dans certains pays en ce moment. Jésus veut établir son règne par la politique. Certains leaders sont des oints de Dieu, les nations doivent devenir chrétiennes par la loi. Dominionnisme, universalisme radical, ça c'est tous seront sauvés, c'est on ira tous au paradis, Michel Polnareff, c'est sa théologie. Quoi qu'il croit ou fasse. Et ensuite, les deux derniers, pour moi, c'est le plus subtil et le plus dangereux en ce moment en France dans nos églises. C'est le plus subtil. La guérison systématique. Et c'est une dérive de la prospérité, parce que Dieu veut que tu sois en bonne santé. Dieu veut toujours guérir tous les mal, toutes les maladies, ici et maintenant. Si quelqu'un n'est pas guéri, c'est à cause de son manque de foi, d'un péché caché ou d'un mauvais enseignement. Et ensuite, on a la théologie du réveil imminent. Et ça, c'est vraiment subtil. C'est vraiment subtil. Tu sais, c'est tous ceux qui prêchent à longueur de journée. Une nouvelle vague d'esprit va bientôt tomber. Dieu va restaurer l'église glorieuse des actes. Une génération va bouleverser le monde. La France va se réveiller spirituellement, etc. etc. Et ces deux courants de pensée sont subtils. Pourquoi ? Parce qu'ils sont motivés par des vérités. La guérison systématique, c'est quoi ? En fait, ils sont poussés par Dieu est amour. Et c'est vrai. Qui croit que Dieu est amour ? Ok. Maintenant, ce qu'ils vont dire, eux, c'est si Dieu est amour, il ne peut pas laisser souffrir ses enfants. Ce qui est faux. Parce que théologiquement, ça ne tient pas debout. Le livre de Job vient totalement détruire cette théologie. Le réveil imminent, c'est quoi ? C'est le Saint-Esprit veut agir puissamment et sauver des âmes. Qui croit que c'est vrai ? C'est le cœur de Jésus. Il veut qu'aucun ne se perde. Il veut que... C'est vrai. Mais du coup, leur conclusion, ça va être « Donc, il faut attendre que le Saint-Esprit fasse tout le travail à notre place. » Et là, j'exagère un petit peu, mais c'est un petit peu ça. Il faut attendre que le réveil arrive. Sauf que le réveil, c'est toi, c'est moi. Le réveil, en fait, il existe depuis la Pentecôte, depuis la première Église. Jésus, il a dit « La moisson est blanche. » Ça veut dire que les gens sont prêts à recevoir. Et puis nous, on va dire « Ouais, mais il y a des gens qui ne croient pas. » Oui, mais il n'a pas dit que tout le monde allait accepter, il dit juste que la moisson est blanche, donc c'est bon. On peut parler de l'évangile, on peut incarner l'évangile, ça va porter du fruit. Donc le réveil, oui, il y a eu des moments de réveil un peu plus forts. Et souvent, les sociologues et puis les théologiens vont dire qu'en fait, c'était juste qu'on revenait à l'évangile. C'est tout. Parce qu'en fait, le mot réveil dans la Bible n'existe pas. Le Nouveau Testament ne parle pas de réveil. Voilà, c'est dit. Et c'est subtil, très subtil, parce que, puis l'apôtre Paul le dit, ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Et là, le mot fable, en fait, il fait référence à ils détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers de contrefaçons. Je ne sais pas si vous avez déjà acheté des contrefaçons. Ça ressemble énormément. Ce n'est pas comme une imitation. Une imitation, c'est en mode, ils savent que ce n'est pas ça, juste ils imitent. Mais les contrefaçons, c'est on fait semblant vraiment que c'est la même chose, sauf que c'est de moindre qualité, mais ça coûte moins cher. Et ces hérésies-là, c'est de moindre qualité, mais elles coûtent moins cher. Elles coûtent moins cher parce qu'elles demandent moins de sacrifices. Bien que des fois, tu es juste de la prospérité, il y en a tellement qui s'endettent. Parce qu'on leur dit, donne, Jésus va multiplier au centuple. C'est faux. Mais c'est des contrefaçons. Donc c'est super dur de le discerner des fois. Paul dit, plusieurs n'écouteront pas. Mais toi, prêche quand même. Incarne l'évangile. Prêche la sainte doctrine. Là, je suis honnête avec vous, ce matin, quand je finissais le message, à la fin, j'étais... ce message, il n'est pas encourageant. Il n'est pas encourageant. J'aurais aimé finir sur quelque chose de plus encourageant pour mon dernier message à l'épi. Tu sais, où tout le monde est content. Puis... Je ne suis pas en train de dire que l'encouragement, ce n'est pas bien du tout. Il faut s'encourager, puis Paul le dit. Mais en fait, ce message, c'est un appel à continuer de servir Dieu malgré la difficulté, malgré l'opposition, malgré la souffrance, parce qu'il va le dire juste après, je vais appeler l'équipe de louange à venir, il va le dire juste après, puis on va ajuster, on a un bloc, mais versets 5 à 8, « Mais toi, donc voici ce que toi et moi on doit faire, sois sobre en tout,
Littéralement, c'est soit réfléchi, prends du recul, soit intelligent. Ne te laisse pas embarquer par toutes les notions de doctrine. Sois réfléchi, prends du recul en tout. Et après, il va dire, supporte les souffrances. Et ça, c'est intéressant parce que la souffrance, c'était quelque chose qui était rejeté par certaines hérésies de l'époque. Il ne faut pas que tu souffres. Et lui, il dit, tu sais quoi, ce que les uns rejettent, toi, supporte-le. Supporte-le. Parce qu'en fait, ce que les uns rejettent, c'est un des meilleurs moyens d'avoir un témoignage puissant, la souffrance. Puis Paul, là, il a souffert. Et puis là, il souffre pendant qu'il écrit ça. Et il dit, supporte la souffrance. Puis au chapitre d'avant, il va dire, supporte la souffrance comme un beau soldat. Supporte la souffrance. Accomplis la tâche d'un évangéliste. Puis là, on retourne dans incarne l'évangile, prêche l'évangile. Remplis bien ton ministère. Fais le bien. Fais le bien. En temps, en qualité, forme-toi pour ça. Si tu as reçu un don, un talent, c'est ta responsabilité d'investir dedans, de te former, de le faire au mieux. On a un Dieu d'excellence, il faut viser l'excellence. Pas le perfectionniste, parce que ça, on n'y arrivera jamais. Mais il faut viser l'excellence. Il faut que tu te formes. Remplis bien ton ministère. Et après, il finit. Pour ma part, en effet, je suis déjà sacrifié. Et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Puis en disant ça, il parle de lui, mais en fait, c'est comme un challenge pour Timothée. C'est, finis la course. Puis finis-la bien. Finis la course, combat, le bon combat, protège la saine doctrine, encourage, réfute, prends soin que Dieu t'a confié. Et fais-le, combat le bon combat, garde la foi. Et désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont attendu avec amour sa venue. Je ne sais pas vous, mais moi, quand je dis ça, je dis, Seigneur, c'est ma prière pour... J'ai 30 ans, j'espère que je ne vais pas mourir demain, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais j'espère qu'à la fin de ma vie, je pourrais dire ça. Je pourrais dire, Seigneur, j'ai plus de force, mon corps dit stop, et puis toi, tu as dit stop à ma vie, puis... mais j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai accompli l'appel que tu m'as donné, j'ai accompli la mission que tu m'avais donnée. Est-ce qu'il y a une église, on peut se mettre ensemble, est-ce qu'il y a une église qui veut répondre à ça ce matin? Oui, on est en vacances, on a envie de se reposer, mais peut-être juste se réengager encore avec Dieu et dire, je vais encore incarner l'évangile pour le temps qui me reste. Qu'il me reste un an, cinq ans, 50 ans, je vais incarner l'évangile et puis oui, je vais me former, oui, je vais apprendre à réfuter, reprendre, à encourager, je vais apprendre à prêcher l'évangile parce que c'est ton appel, c'est mon appel. Est-ce qu'il y a une église qui veut s'engager et dire Jésus, moi je suis disponible pour toi. Il y a des gens qui n'écoutent pas, il y a des gens qui n'écouteront, mais c'est pas grave, je veux quand même répondre à cet appel-là. Seigneur, on veut s'approcher de toi ce matin puis répondre à cet appel encore de dire, ben, on veut incarner l'évangile ensemble. On est tes ambassadeurs, Seigneur. On est tes disciples et on veut te servir avec les dons et talents que tu nous as donnés, Seigneur. Dans notre sphère d'influence, Seigneur, on veut vraiment, Seigneur, être ceux qui vont incarner l'évangile dans notre famille, dans notre lieu de travail, à l'école, avec les amis, dans la rue, dans les bouchons, dans les travaux en ce moment à Strasbourg qui saoulent tout le monde. Seigneur, on veut incarner l'évangile. Et oui, c'est dur, mais Seigneur, viens nous aider à supporter la souffrance. Viens nous aider à être sages, à se reposer quand il faut, mais viens nous aider à être des bons soldats, à avancer, et puis à avoir un témoignage puissant, que ton Saint-Esprit rend puissant aux yeux des autres, et que les autres puissent se dire, mais j'ai envie d'être réconcilié avec Dieu. Seigneur, viens nous aider, s'il te plaît. C'est notre appel. C'est cette charge que tu nous as donnée, puis on veut vraiment y répondre en tant qu'Église. Que l'Église de l'Épi incarne l'évangile, et puis rayonne et brille, qu'on puisse descendre de la montagne et briller là où tu nous as placés. Et alors on verra des baptêmes. Et alors on verra encore plus de gens restaurés. Et alors on verra encore des jeunes qui vont retrouver leur vraie valeur et identité en toi. Et alors on verra des témoignages puissants, des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient aimés, qui ne savaient pas qu'il y avait un Dieu qui pouvait les pardonner. Seigneur, viens nous fortifier pour ça, alors qu'on prie, alors qu'on va servir et puis travailler pour incarner ces prières que l'on te fait. Au nom de Jésus. Amen.
Sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Connais mes pensées. connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je
ensemble, on va prendre un temps intérieur, juste avec ce chant qu'on a prié, qui était une prière pour nous, juste de dire: Seigneur, sonde, fais-moi grandir dans le discernement, dans cette génération, dans cette saison. Seigneur, nous avons besoin d'être une église qui discerne, des disciples qui discernent. Fais-nous grandir, Seigneur. Tu n'en as pas fini avec nous, Seigneur. Viens protéger chacune et chacun. Aide-nous, comme tu le dis dans ta parole, aide-nous à garder notre cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de lui que viennent les sources de la vie, Seigneur. Quel enjeu pour nous, quel enjeu pour nos générations qui arrivent après nous, de donner envie, de donner soif d'aimer Dieu, d'aimer sa parole, de se nourrir de sa parole. Comme le dit Jérémie, Seigneur, développe notre oreille, notre écoute, comme écoutent les disciples. Rends notre front aussi dur que le diamant, aussi dur que nos ennemis, aussi dur de toutes les fausses doctrines qui viennent parfois venir polluer nos vies et polluer nos relations, Seigneur Jésus. La bonne nouvelle, c'est que nous avons un avocat, le Saint-Esprit. Il est avec nous tous les jours. Il nous accompagne, il nous éclaire. Alors juste un instant de discernement, d'introspection, un temps juste pour dire: Jésus, je veux continuer à être pur. Je veux continuer, Seigneur, à faire grandir cette foi en moi. Augmente ma foi, Seigneur Jésus. Augmente ma foi pour ma propre vie, que je sois un ambassadeur qui t'honore. Augmente ma foi pour la grâce de Dieu qui me relève, qui m'accompagne. Augmente ma foi pour ne pas avoir honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Augmente ma foi pour incarner l'évangile. Oui, Seigneur, nous n'avons point honte ce matin de confesser ensemble que nous avons un grand Dieu. Notre Dieu est parfaitement saint. Notre Dieu est parfaitement pur. Et nous ne sommes pas Dieu. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, on prie pour des personnes peut-être qui ont été comme emprisonnées dans des doctrines. Et c'est vrai, Seigneur, que tu nous permets d'accueillir des personnes. Parfois, ils ont été brisés par des faux enseignements. Et c'est une grande joie pour nous de les revoir, t'aimer, de reprendre vie, de reprendre assurance, de dire que non, l'évangile, c'est une bonne chose. Mais nous voulons continuer à prier peut-être pour des personnes qui ont été saccagés par des fausses doctrines. Seigneur, continue ton œuvre dans ton corps, dans le corps de Christ, s'il te plaît. Ton royaume a besoin de toi, Seigneur Jésus. Ton royaume a besoin de toi. Accompagne chacun. Et on a tellement une forte pensée pour toutes les générations pour lesquelles nous sommes Église aujourd'hui et qui vont venir après nous. Un jour, tu vas revenir, Seigneur, nous voulons nous tenir prêts, mais nous voulons investir dans cette génération. Nous voulons nous-mêmes, dans notre génération, être comme les chrétiens de Béret. On veut examiner dans ta parole. On veut prendre du recul. Accompagne-nous, Seigneur, parce que nous croyons que tu n'en as pas fini avec cette moisson blanche strasbourgeoise, Seigneur Jésus. Tu n'en as pas fini pour cette moisson blanche dans nos familles, au travail. Tu n'en as pas fini avec nous, Seigneur. C'est tellement bon de savoir que tu continues à purifier ton Église, prendre soin de ton Église, travailler le cœur de ton Église. Mais aide-nous à nous examiner nous-mêmes encore ce matin. Et à grandir, à muscler notre capacité au discernement, à poser le bon diagnostic. Seigneur, à toi toute la gloire. Pour des textes comme ceux de l'apôtre Paul. Empêche-nous de trier dans la Bible ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas, s'il te plaît. Aide-nous, Jésus. Oui, des fois, l'évangile est piquant. Mais nous savons que derrière ce Dieu qui vient nous chercher, nous pousser dans nos retranchements, c'est jamais pour nous écraser, mais pour nous relever, pour nous établir. Alors, façonne-nous. Tu es le potier. Nous sommes l'argile. Tu es le potier. Nous sommes l'argile. Tu es le potier et nous sommes l'argile. Amen. Est-ce qu'on peut célébrer Jésus et l'applaudir dans ce lieu ? Celui qui bâtit son Église. Celui qui bâtit son Église encore. Celui qui continue son œuvre. Et justement, avec cette parole, on va continuer de faire ce que Jésus nous a demandé de faire. Laissez venir à moi les petits-enfants. Ne les en empêchez pas. On veut vivre d'une certaine manière. C'est toute la joie, la diversité de notre Église, d'être béni par tant de cultures, par tant de nations. Alors on va accueillir un petit enfant d'une manière particulière. Tapez dans les mains avec moi. Allez, si vous avez encore de l'énergie pour vous mettre debout, mettez-vous debout. Allez, on y va. À droite. Allez, allez. Allez, Jérôme, essaye, tu vas voir. Gauche. Droite. Gauche. Le prénom de la personne qu'on veut présenter, c'est Joyce. C'est la joie. Alors, on est dans la joie ce matin. Le papa, la maman, la petite Joyce par ici, la famille juste devant moi, continuez la famille. Allez Église, sois pas fatigué, tu peux taper dans les mains, tu peux aller à gauche, à droite. La joie de l'Éternel est notre force, hein. Profitez bien, regardez bien Larry, hein, c'est pas tous les jours qu'on le voit comme ça, hein. J'ai un grand Dieu, ça veut dire, hein? A very big God. Est-ce qu'on peut applaudir Jésus, le grand Dieu ? Venez par ici, la famille, mettez-vous en face de l'église, comme ça, on peut honorer aussi la famille. On est très heureux de ce matin de pouvoir prier. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, Larry, Técler et la magnifique Joyce. Est-ce qu'on peut honorer Joyce et la bénir dans le nom de Jésus ce matin ? Je vais inviter Anita, je vais inviter Jacques Lopa, Jérôme, s'il te plaît. On va profiter aussi de la dernière de Jérôme pour qu'il puisse prendre le temps aussi de prier pour la famille. Je donne quelques temps le micro à Anita, Jacques, pour des paroles de bénédiction. Et puis après, on va prier ensemble.
Et puis comme j'ai toujours la manie d'abord de prier pour l'enfant et de parler à l'enfant, ben, je vais parler à l'enfant pour demander la bénédiction de Jésus sur Joyce. Bonjour Joyce. Bonjour petite fille. Eh bien, nous allons prier pour toi avec l'Église parce que Jésus t'aime. C'est lui qui a permis que tu puisses venir au monde et nous voulons appeler la bénédiction du Seigneur sur toi. Jésus, nous te la remettons. Tu l'aimes encore plus que ses parents. Tu l'aimes encore plus que nous tous. Nous te prions pour que tu la bénisses dans son corps, son âme et son esprit. Nous te prions pour que son âme s'élève devant toi. Nous te prions pour qu'un lien ardent s'établisse entre elle et toi. Seigneur, nous savons que tu parles aux enfants très, très, très jeunes. Nous voulons qu'elles t'entendent et nous voulons qu'elles te répondent très vite, Seigneur, afin qu'un lien intime se tisse avec toi, afin que la beauté du cœur grandisse en elle. Oui, Seigneur, tu as déjà des projets de paix pour elle, tu as déjà un appel pour elle, et nous te prions pour que les parents puissent la conduire dans cet appel.
Son nom soit béni. Hier soir, pendant que je repassais mon vêtement pour venir au culte, j'avais choisi de mettre une chemise bleue au dernier moment. J'ai préféré mettre une chemise africaine. Voilà. Merci. Que le nom du Seigneur soit béni. Et je veux vraiment bénir Larry et notre sœur Téclair, parce que je ne sais pas s'ils se souviennent, c'est moi qui avais prêché donc lors de leur mariage. Donc c'est une bénédiction et une grâce pour moi de vous accompagner. Et vous savez, quand je prie, donc il y en aura d'autres derrière. Amen. La première a été très difficile à avoir, mais les autres vont venir tout simplement. Il y aura un peu de problème. On dit toujours, les femmes, elles disent, c'est souvent le premier difficile. Après, les autres, elles sortent sans problème. Alors que son nom soit béni. Seigneur, nous te bénissons pour cette famille, pour ce couple, pour cet enfant. Nous te les remettons, que toute ta grâce et ta bénédiction les accompagnent. Seigneur, que ta puissance soit sur eux. Nous prions que tu donnes aux parents toute la sagesse pour éduquer, Seigneur mon Dieu, cet enfant, afin, Seigneur, que plus tard, elle puisse te servir également. Nous les bénissons dans leur couple, Seigneur. Nous les bénissons afin que toute ta grâce les accompagne. Nous te remettons, Seigneur mon Dieu, cette jeune enfant, que ta grâce soit sur elle. Tu veilles sur elle également, sur sa santé. Tu la protèges, Seigneur, de toute maladie, qu'elle ne soit affectée d'aucune maladie. Et Seigneur mon Dieu, que Seigneur mon Dieu également ce couple soit un exemple dans l'Église, Seigneur, et un exemple dans le service. À toi soit toute la gloire, l'honneur, la reconnaissance et la louange. Amen. Amen.
Allez, une troisième vague de prières avec Jérôme pour clôturer et on va prier pour toute la famille et les amis aussi.
Seigneur, on te prie que Joyce, dans sa famille, puisse trouver des personnes qui vont incarner l'Évangile pour elle, afin de transmettre des valeurs de ta parole, de ton amour, de ta grâce. Je te prie pour toute la famille ici présente qui puisse être des apôtres Paul, pour Joyce qui sera un Timothée, qui sera, Seigneur, quelqu'un qui va trouver autour d'elle et des gens qui vont lui apprendre la bonne nouvelle, qui vont lui instruire, Seigneur, toute cette bonne nouvelle qui change la vie, qui change le comportement et qui conduit dans un appel que tu lui as donné déjà. Seigneur, viens vraiment bénir la famille, viens bénir Joyce encore, Seigneur, et que dès son plus jeune âge, elle puisse découvrir qui tu es et le plan que tu as pour elle. Au nom de Jésus. Amen.
On peut faire mieux pour le Seigneur dans sa fidélité. Soyez bénis. On va finir avec le même chant, je pense. Hein, comme ça, on va se bénir et on va chanter que c'est un grand Dieu. À vous qui êtes en ligne, soyez bénis. À vous aussi, soyez bénis. Et bon retour à chacune et à chacun. Let's go. Allez, allez, allez. Amen.